Et maintenant, un bon podcast.
Bien, bonjour à toutes et tous. J'ai le plaisir d'être en face d'une personne qui est un peu à l'origine du prix le plus prestigieux au niveau du jeu de société en Europe et mondial, on va dire, hein, puisque c'est Tom Wernick. Bonjour Tom.
Bonjour.
Alors, Tom, tu es à l'origine du Spiel des CRS.
Oui.
Le Spiel, maintenant, est à 31 ans de vie. Ça fait 31 ans qu'il existe. Est-ce qu'on peut revenir à l'origine? Comment est-ce que ce prix est né? Quelle était la volonté au départ de faire un prix en Allemagne pour récompenser un jeu de société?
L'idée, c'était... ça vient d'un de mes collègues. Il s'appelle Hertz. Jürgen Hertz, il habite près de Essen. Et après, il y avait un ami de moi, Bernhard Tolle, qui habite à Marburg, et moi, qui ont réalisé l'idée, nous avons inventé une sorte d'organisation et les règles pour le prix. Ça nous prenait environ un an et demi, parce qu'à ce temps, on n'avait pas eu Internet, rien que la poste. Même le téléfax n'était pas disponible parce que ça coûtait environ 12 000 marques, une fortune. Alors, on dépendait de la poste. Et pour être sûr que ça fonctionne, nous avons... célébrer le procès d'élection complète seulement pour l'essayer dans l'an avant, un jeu qui n'était jamais publié, seulement pour tester si le procès fonctionne.
Okay. Et donc, quelle était la volonté? Pourquoi est-ce que vous avez ressenti le besoin de faire un prix pour récompenser un jeu?
L'idée derrière le prix est très simple. La groupe de la jury, ce sont des journalistes, ils sont responsables aux joueurs, mais pas aux éditeurs.
Voilà.
L'idée était de mettre une sorte de pression sur des éditeurs de présenter des jeux d'une qualité supérieure, d'une très très haute qualité. Et comme le prix a une certaine valeur, c'est très attractif pour les éditeurs de présenter vraiment une bonne qualité. Autrement, ils n'ont aucune chance d'obtenir le prix.
Et donc ça veut dire qu'en 1979 ou 1979, vous aviez un sentiment que la qualité des jeux de société qui étaient sur le marché n'était pas si bonne que ça?
À ce temps, l'Allemagne était un des pays, comme il y a plusieurs au monde, avec une production et qualité médiocre.
Ah oui.
Oui. Et nous avons eu la vision, vraiment l'idée d'améliorer, d'augmenter la qualité.
D'accord.
Et même la quantité des jeux. Si il y a une compétition entre les producteurs, automatiquement, on a une quantité qui est plus grand.
Voilà. Alors, tu l'as dit, le Spiel est orienté vers les joueurs. L'idée, c'est vraiment de montrer quelle est la vie d'un jury indépendant par rapport aux jeux qui sont sur le marché. Donc, ça n'a pas de volonté commerciale.
C'est la condition pour être appelé dans la jury et être absolument indépendant de commerce ou des producteurs. Par exemple, un créateur, un inventeur de jeux ne pourrait jamais être membre de la jury. Quand est-ce que quelqu'un travaille comme consultant, consultant, ou il traduit des règles ou quelque chose comme ça, pour l'industrie, il ne peut pas être dans la jury. C'est très très strict et ça est la base de la valeur du prix.
Alors, donc on l'a dit, le Spiel existe depuis 31 ans. Le salon de Essen, lui, ça fait 27 ans. On est plus ou moins à 27 ans.
Environ, oui. Nous avons commencé avec le prix à Essen, n'importe que, où. On a décidé d'aller à Essen. Et comme nous étions tous là, les éditeurs, les créateurs, les membres de le jury, on restait les prochains jours pour jouer. Et après quelques années, c'était trop de personnes pour rester dans cette école supérieure, cette Volkshochschule. Et il y avait une publication qui s'appelait Spielbox. Les organisateurs, l'éditeur de cette Spielbox a organisé une halle de cette foire de Essen qui était plus ou moins vide quand on changeait à cet endroit. Mais l'année prochaine, c'était déjà une halle remplie. Et l'année prochaine, c'était encore plus grand. Et maintenant, c'est la manifestation la plus grande du monde.
Voilà. Tout à fait. Donc, effectivement, puisqu'on a plusieurs milliers de visiteurs qui viennent du monde entier. Mais ça veut dire qu'à l'époque, quand le salon de Essen s'est créé dans cette fameuse école supérieure, hein, c'était le sentiment, c'est que ça n'allait pas être aussi grand, peut-être, à cette époque-là. Vous êtes arrivé avec votre organisation pour le Spiel en disant, là, tout le monde est là, les éditeurs.
Ça commençait comme une sorte d'événement pour jouer. Et en plus, l'éditeur de cette publication a inventé quelques éditeurs de jeux de présenter les jeux.
D'accord.
Alors, ils ont eu un petit stand. Et c'était le commencement d'une toute petite foire.
Mm-hmm. Oui, c'est ça. Et donc, vous jouiez, et puis votre association...
C'était une combinaison entre présentation et une occasion de jouer.
Voilà, tout à fait. L'idée, c'est que le salon de Essen est très bien pour l'association du Spiel, pour avoir accès à tous ces jeux-là. On peut dire que ça travaille vraiment ensemble, ces deux organisations?
Non, pas du tout, pas du tout. Pour être indépendant des producteurs, il faut avoir une certaine distance. Pour cette raison, nous avons quitté Essen pour la célébration du prix. Et... Cette activité à Essen s'adresse, c'est une négociation entre les producteurs et les consommateurs et le commerce. Et c'est bon pour le jury d'être ainsi éloigné que possible.
Ça maintient la neutralité. En fait.
Oui.
Quels sont les critères qu'on utilise dans l'association du Spiel des CRS pour primer un jeu?
Ils sont plus ou moins les mêmes qu'ici, Boulogne-Billancourt. Ça veut dire originalité de l'idée, les mécanismes, le plaisir de jeu, la qualité des règles, la clarté des règles. Et la différence entre les protos qui sont présentés ici et les jeux qui sont... sur la liste de la jury, c'est seulement la présentation. Un proto peut être...
Donc le Spiel des CRS est une institution, hein, on suit dans le monde entier les résultats de ce prix. Quel est l'impact d'un prix comme celui-là sur un jeu, l'avant-après Spiel, est-ce que c'est chiffrable?
Ah oui, c'est chiffrable. Disons, la circulation... normal pour un grand jeu qui coûte 25 euros et entre 3000 et 5000 la première circulation. Si un jeu gagne le prix, on vend en Allemagne seulement entre 3100 et 2 millions dans la première année. Alors cette influence a impacté très 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 fort.
Donc on est sur du x100, on est 100 fois plus efficace, on va dire, sur le marché. Mais qu'est-ce qui fait que justement on passe à ce x100? C'est le fait qu'il soit primé, c'est vraiment C'est le public allemand qui réagit par rapport à ce prix. Quand on le voit sur une boîte, on se dit on va l'acheter plus que les autres.
C'est pas seulement les joueurs en Allemagne. Le prix est considéré en tout le monde, tout le monde. Et c'est étrange. Par exemple, dans les États-Unis, on peut vendre des jeux qui sont complexes, qui sont attractifs. Quand est-ce qu'ils portent le signet du jeu de l'année, cet signet rouge, le logo? Et ce n'est pas traduit. Ça n'indique pas Game of the Year. Ça indique Spiel des Jahres en langue allemande. Et ça fait un jeu accepté en Amérique.
Voilà, tout à fait. Oui. Il passe les frontières grâce à ce logo-là. Toi, tu as fait 31 ans de Spiel. Maintenant, tu penses à autre chose?
Ah oui. Après 31, plus que 30 années, ça devient une sorte de routine. Et maintenant, je me concentre à l'archive barbarois des jeux. J'organise la foire pour des créateurs en Allemagne, à Munich. Et ça m'occupe. Oui, ça m'occupe.
Alors, ce qu'on ne dit pas aussi, c'est que tu es responsable d'une collection qui est assez importante en nombre de jeux de société.
Oh, maintenant, ce sont environ plus ou moins 14 000 jeux et ça a grandi.
D'accord. Donc 14 000 jeux, c'est-à-dire le plus ancien.
La majorité, disons 80% sont des jeux qui étaient publiés pendant les dernières 40 années. Et il y a des autres de la Russie, des États-Unis ou quelques-uns qui sont plus âgés, oui. Additionnels.
Et donc ça veut dire qu'on peut dire que sur la durée du Spiel, hein, on parle de 30-40 ans, si on a vu passer 14 000 jeux. Il y a eu 14 000 jeux qui sont passés sur le marché comme ça.
Oui, environ. Je reçois environ 400-500 jeux nouveaux par an. Ça veut dire en 10 années, ce sont 5 000.
Et quand on parle de ces 400 à 500 jeux, c'est sur le marché allemand ou c'est plus large que ça?
Non, c'est inclus, c'est le monde de la langue allemande. Ça veut dire Suisse et Autriche. Mais de base, ce sont des jeux publiés en Allemagne ou importés et démontrés ou disponibles dans les marchés allemands.
Ouais, tout à fait. Donc, ça montre une bonne quantité. Enfin, ça donne une idée du marché du jeu de société en Allemagne. Quel est le but de cette archive assez importante de 14 000 jeux? Cette archive de 14 000 ne va pas être utilisée en tant que musée, mais ça va servir à vraiment des choses plus scientifiques.
Le but est de conserver les jeux pour les générations qui viennent. Parce que si tu veux acheter aujourd'hui un jeu qui était publié, disons, il y a 5 années seulement, tu peux ou recevoir un truc qui est plus ou moins détruit, ou non, pas de chance. Oui. Et c'est le but d'un archive de conserver les jeux pour les générations futures. D'accord. En plus, c'est une base pour des recherches scientifiques et on utilise cette archive pour munir des expositions.
D'accord. Quand on parle d'approche scientifique par rapport à cette archive-là, c'est quoi? Quelles sont les études scientifiques?
Il y avait quelqu'un qui voulait publier un livre sur des variations de l'échec. Échec de 10 ou de stéréo, n'importe quoi. Il a publié l'encyclopédie des variations d'échec. Et ça contient, je ne sais pas, quelques cent variations. Quelques cent. Pour une telle recherche, il faut avoir le matériel, par exemple. Ou il y a quelques-uns qui font recherche sur le changement du dessin ou des illustrations, ou n'importe quoi.
Oui, tout à fait. Donc c'est là pour ça, c'est à ça que c'est destiné. Bien, dernière question, quelle est l'évolution majeure qui a été détectée par l'équipe du Spiel en 31 ans? Quel est le constat qu'on peut faire sur ces 31 ans?
Qualité. La qualité augmentée et la présentation et l'illustration a atteint un niveau qui est absolument incomparable à celle de 30 ans. Oui.
Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à toute cette multitude d'éditeurs qui se lancent maintenant? Est-ce qu'on peut dire que le Spiel a peut-être donné envie à ces éditeurs de se dire « moi aussi je peux faire un jeu »
Quelques-uns, oui, mais pour la majorité, c'est un grand plaisir d'avoir un jeu sur le marché, mais ce sont seulement peu qui peuvent vivre, oui, comme Knizia ou Kramer, oui. Mais ce sont seulement peu.
Et d'un point de vue des sociétés d'édition qui se créent, en 2010, on le voit, il y a beaucoup de sociétés, en France par exemple, il y a beaucoup de sociétés d'édition qui se sont lancées. Quelle est la vision que vous pouvez avoir dans votre équipe du Spiel, de se dire, tiens, il y a de plus en plus d'éditeurs qui se lancent?
Ah oui, on peut les comparer avec un parapluie qui protège même les petits éditeurs, parce que ça leur donne une chance dans les marchés.
Qu'est-ce qui leur donne une chance? C'est la présence du Spiel ou la présence du...
La visibilité par le prix.
Voilà.
Même s'ils sont seulement sur la liste de recommandations, c'est déjà une grande chose pour un petit éditeur. Pour Cosmos ou Ravensburg, c'est acceptable et une bonne chance. Chose. Mais pour les petits, ça c'est très, très important.
Donc, est-ce qu'on peut dire que c'est ça qui est arrivé à Libellud, donc cette société d'édition jeune qui a été créée pour lancer Dixit, et maintenant Dixit et Spiel des Jahres?
Ça, c'est un exemple parfait. Maintenant, c'est une compagnie, un éditeur connu. Hein. D'abord, c'était un des tout petits.
Oui, c'est effectivement une belle histoire. Eh bien voilà, merci Tom. Donc c'était Tom Werneck, donc un des fondateurs du Spiel des Jahres. Un grand merci pour cette entrevue.
Merci Nicolas.
Vous avez aimé ce podcast? Alors appuyez sur la touche Trop Cool. Vous n'avez pas aimé ce podcast? Alors continuez. Sur podcast.net, vous en trouverez d'autres. Vous verrez, à l'usure, vous y arriverez.